La science de l'environnement. En partenariat avec Reporter.net, le quotidien de l'écologie.
Et à la une de la science aujourd'hui, les promesses de l'énergie bleue.
Depuis la découverte du feu, l'humain ne connaît que la combustion. Il n'a jamais su créer d'énergie sans brûler tout ce qu'il avait sous la main. Au XXe siècle, l'hydroélectrique, l'éolien ou le photovoltaïque ont ouvert la voie à de nouvelles sources d'énergie. Mais il en est une, toute nouvelle, capable de révolutionner nos concepts et mettre fin définitivement à l'ère de la combustion. De quelle source d'énergie révolutionnaire s'agit-il ? Du sel.
Voilà, extrait du documentaire « Du sel dans mon moteur » de Jérôme-Cécile Auffray, diffusé sur France 5. Et pour faire de l'énergie avec du sel, du moins avec la différence de salinité entre l'eau de mer et l'eau douce, et bien des chercheurs du CNRS de la Sorbonne Université et de l'Université Toulouse 3, Paul Sabatier, ont cherché à évaluer l'efficacité d'un condensateur. Leurs travaux sont publiés dans la revue Physical Review et on en parle, Agnès, avec notre invité.
Benjamin Rottenberg, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue, vous êtes chercheur au CNRS, au laboratoire Phoenix à Paris. Autour de la table, Hervé Kempf, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédacteur en chef du quotidien de l'écologie Reporter, notre partenaire comme chaque lundi. Avant de parler de votre étude, Benjamin Rottenberg, vous pouvez nous expliquer ce qu'est l'énergie bleue ?
L'énergie bleue ou l'énergie osmotique, c'est l'énergie qu'on pourrait récupérer quand on mélange de l'eau salée, par exemple de l'eau de mer, avec de l'eau douce, par exemple de l'eau de rivière. Ce mélange, il a lieu tous les jours, en permanence, dans les estuaires, vous l'avez dit. Et associé à ce mélange, il y a une quantité d'énergie qui est libérée, que pour l'instant, on ne récupère pas du tout, mais qu'on pourrait éventuellement récupérer.
Mais l'énergie, c'est le choc de la chimie entre l'eau salée et l'eau douce, justement ?
Alors, peut-être que ce n'est pas évident de comprendre d'où vient cette énergie. Pour le mieux comprendre, je vous invite à penser au processus inverse, qui est celui du dessalement. Si je vous donne de l'eau saumâtre, qui contient du sel, mais pas autant que dans l'eau de mer, comment est-ce que vous pourriez faire pour séparer cette eau saumâtre en de l'eau salée d'une part et de l'eau douce d'autre part. Vous pourriez mettre ça dans une casserole et puis dépenser de l'énergie, beaucoup d'énergie si vous faites ça en chauffant par une casserole, pour faire évaporer une partie de l'eau. Et puis cette eau qui va être évaporée, vous pourrez ensuite la condenser sous forme d'eau douce et vous aurez récupéré au fond de votre casserole de l'eau qui est plus salée. Si vous avez dû dépenser de l'énergie pour faire ça, c'est réciproquement l'énergie que vous pourriez en principe récupérer lorsque vous faites le mélange qui se fait spontanément.
Ça veut dire que c'est deux phénomènes qu'on peut conjuguer en fait, le dessalement de l'eau de mer et puis la production d'électricité à partir de ce choc entre eau salée et eau douce.
Tout à fait, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, mais ce sont les mêmes outils qu'on peut utiliser soit dans un sens pour récupérer l'énergie bleue à partir de ces eaux salées et douces, ou à l'inverse, dépenser de l'énergie et produire de l'eau douce et de l'eau salée à partir de l'eau saumâtre.
Mmh. Alors jusqu'à présent, pour capturer cette charge électrique, on utilisait une membrane avec un minuscule trou, on va dire, pour séparer l'eau douce de l'eau salée. Là, vous, vous êtes intéressé à une nouvelle technologie, enfin une autre technologie. Pourquoi ?
L'idée de récupérer l'énergie bleue, elle est assez ancienne. Elle a été proposée dans les années 50. Et il a fallu attendre déjà une vingtaine d'années pour que les premières technologies permettant de récupérer une partie de cette énergie, soient proposées et elles utilisaient ce qu'on appelle des membranes semi-perméables. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est simplement une membrane qui va laisser passer certaines choses et pas d'autres. Et pour comprendre ce que ça veut dire, vous pouvez penser à votre passoire dans votre cuisine. Vous versez l'eau des pâtes avec les pâtes vont rester coincées au fond de la passoire et puis l'eau va passer à travers les trous. Et si ça se passe bien dans le cas de la passoire, c'est parce que les pattes sont très grosses, vont être retenues par des trous qui sont suffisamment gros pour laisser passer l'eau. Mmh. Par contre, si vous essayez de faire la même chose pour séparer le sel et l'eau de l'eau salée, vous allez avoir besoin de faire des trous qui sont très petits. Mmh. Et parce que vous avez des très petits trous, eh bien, il n'y a rien qui va passer facilement. Vous pourrez quand même faire passer l'eau sans le sel ou l'inverse.
De la taille du nanomètre à peu près.
Voilà. Pour pouvoir discriminer entre les deux, il va falloir des trous de très petite taille et ça va empêcher le fluide de s'écouler et vous allez perdre beaucoup de l'énergie que vous étiez censé récupérer. Donc il y a des procédés qui ont été proposés et même une usine pilote qui avait été montée en Norvège et apparemment les promesses ne sont pas tout à fait tenues en termes d'efficacité énergétique et donc il a fallu se tourner vers d'autres procédés pour éventuellement récupérer cette énergie bleue.
Hervé Kempf pour Reporter.net.
Et donc là, ça serait la nouvelle technique, et c'est pourquoi vous êtes aujourd'hui ici, c'est les supercondensateurs. Alors est-ce que vous pouvez nous l'expliquer aussi simplement qu'avec l'exemple des pâtes
Voilà, c'est ça. Parlez-nous pâtes et passoires, là on comprend.
Alors je vais peut-être d'abord, dans un premier temps, vous parler globalement de deux procédés qui sont les
deux. Mais court, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps.
Ouais. Un premier procédé qui repose toujours sur les membranes, qui laisse passer à la fois le sel et l'eau, mais de façon différenciée, et ça peut suffire pour extraire une partie de l'énergie bleue. C'est notamment des chercheurs du CNRS qui ont déposé un brevet qui est exploité par une start-up française. Et le procédé auquel on s'est intéressé, effectivement, il fait intervenir ce qu'on appelle des supercondensateurs, qui sont des dispositifs qui permettent de stocker l'électricité. Le stockage de l'électricité, vous connaissez tous. Vous avez dans votre smartphone ou dans votre batterie de voiture, si vous avez une voiture électrique, vous avez une batterie. Avec cette batterie, vous faites deux choses. Vous pouvez soit dépenser l'électricité que vous avez stockée dans votre batterie, et ça, c'est en général ce qu'on aime bien. Et puis, quand votre batterie est vide, vous devez la recharger en la branchant sur le secteur. Les supercondensateurs, c'est un peu pareil. Vous pouvez les charger, les décharger. Et par rapport à des batteries, ça va stocker moins d'énergie, mais vous allez pouvoir stocker et restituer l'énergie beaucoup plus vite. Si vous voulez une analogie avec les coureurs à pied, la batterie, ça va être le marathonien, alors que le supercondensateur, ça va être le sprinter.
Allez, dernière question, Agnès.
Et est-ce qu'on a une idée de quand on pourrait voir peut-être un jour une centrale proche d'un estuaire en France? Et puis, est-ce qu'il y en a certains en particulier qui dégagent déjà un fort potentiel dans notre pays?
Alors, dans notre pays, je ne sais pas quel serait l'estuaire le plus favorable. Mm-hmm. Pour pouvoir aller vers des usines qui produiraient vraiment l'électricité en quantité suffisante, il faudra attendre encore quelques années de recherche et développement. On a quelques atouts en France, à la fois au niveau académique et industriel, pour parvenir à cet objectif. Mmh. On peut avoir quand même en tête, au niveau mondial, que le potentiel de cette énergie bleue est extraordinaire. On estime à peu près, dans la littérature, qu'on pourrait produire, grâce à tous les estuaires du monde, environ 2 TWh, ce qui représente à peu près 2/3 de la production électrique mondiale.
Ah oui, quand même.
6 fois la totalité de la puissance produite par les centrales nucléaires dans le monde.
Ouais.
Donc le potentiel est gigantesque. Mmh. Évidemment, on ne va pas tout récupérer. Mais même si on récupérait une toute petite partie de toute cette quantité potentiellement disponible, ça pourrait éventuellement être une composante intéressante d'un mix énergétique dans le monde et en France en particulier.
Mmh. Très intéressant, très prometteur en tous les cas. Il y a beaucoup de travaux à faire encore, mais pour les applications. Mais en tout cas, effectivement, c'est une piste à emprunter. Merci beaucoup à vous pour ces informations et donc à l'occasion de la publication de vos travaux cette semaine. Merci Agnès. À demain. Et puis Hervé Kempf, on jette un œil quand même sur reporter.net pour le sommaire.
Tout à fait. Oui, nous allons à Borne. Une île entourée d'eau, sans doute y a-t-il beaucoup d'estuaires, mais là on était sur l'île, et s'intéresser au centre de réadaptation des orang-outans qui sont chassés par la déforestation. Le reportage, hélas, et l'enquête montre que ces fermes, même ces centres, même s'ils sont très émouvants, on est très content de voir ces petits orang-outans qui réapprennent la vie sauvage, en fait ont peut-être un effet contre-productif parce que d'une certaine manière ils servent d'alibi à la poursuite de la déforestation dans l'île de Bornéo.
Et donc, c'est sur reporter.net. Merci beaucoup, Hervé et Agnès. À demain.
À demain.
La science de l'environnement. En partenariat avec reporter.net, le quotidien de l'écologie.